diagonale qui apparaît à cette occasion. Qui va vous montrer que c'est bien du borroméen dont il est question. Hein, le borroméen, c'est un rond, tient les deux autres, mais on ne sait pas lequel. Sur les trois, ou sur les quatre, ou sur les cinq, n'importe quel rond tient les autres. Si on retire un quelconque, tous les autres sont libres. D'accord ? Regardez la particularité, regardez où s'inscrit ce que je vais appeler la fonction paternelle. J'appelle fonction paternelle le fait de dire que le père, n'importe qui peut être père, mais il ne faut pas que ça court les rues. C'est ce que dit Lacan dans le séminaire. Il dit ça dans RSI. Le père, il faut que n'importe qui puisse être père, c'est pas la peine d'aller à l'école, et pas à l'école des parents, c'est des effets psychotiques, des trucs comme ça. C'est pas parfait le père, mais parce que c'est pas la peine que ce soit parfait. L'important, c'est que ce soit n'importe qui puisse avoir, remplir la fonction. Hein? C'est d'ailleurs, on passe son temps à aboyer après les pères, justement, à cause de ça. On voudrait qu'ils soient autoritaires, qu'ils soient responsables, tout ça. Les pauvres, ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça soit n'importe qui puisse remplir la fonction, dit Lacan, mais que ça ne court pas les rues, que ce ne soit pas cousu de fil blanc. Il ne faut pas que le gamin ou la gamine y comprenne trop tôt. Comprennent trop vite. C'est peut-être pour ça même que Lacan s'est donné la peine de faire du compliqué là où on pouvait faire plus simple. Parce qu'il y a quelque chose de père dans cette histoire. Mais moi je pense que c'est pas la peine d'en rajouter. C'est suffisamment compliqué pour que ça fasse père le temps que vous en apercevez. Le temps de vous en apercevoir et vous allez guérir votre psychose. Vous allez devenir un analysant sérieux. Voilà comment je commande ce mouvement de. Regardez, je vous l'ai dessiné en vous disant, pour guider votre attention, je l'ai dessiné en disant, regardez, je ne touche pas au croisement du rouge et du vert, je le redessine de la même manière. Et le fil bleu qui passe en dessous dans le tableau, dans la gravitation du tableau, en dessous du croisement rouge-vert, ce croisement bleu, je le fais passer, ce fil bleu, je le fais passer au-dessus, en respectant l'alternance qui est commandée par ce croisement que j'ai conservé. Bon, très bien. Regardez maintenant comment je vais vous le dire. Je peux vous dire que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai conservé le croisement du bleu et du vert. Regardez le croisement du bleu et du vert, c'est le même. Vous voyez, le vert passe au-dessus du bleu. Le vert passe au-dessus du bleu. Finalement, dans ce que j'ai obtenu un croisement vert-bleu qui est le même que le croisement du vert et du bleu de ce dessin. Et je peux dire, sans aucunement me tromper et sans être contradictoire, quelque chose de tout à fait différent de ce que je vous ai dit pour vous présenter le mouvement neuf, je peux vous dire que ici le rose, le trait qui est plutôt rose ou rouge, il passe ici, pour vous, c'est du côté droit. Vous voyez, il est à droite du croisement sur lequel je concentre mon attention. Ce croisement du vert et du bleu qui est le même ici et là, le fil rouge qui passait à droite, je le fais passer à gauche en respectant l'alternance. Et bien ça donne ce dessin. Vous voyez ? Je peux le décrire. Je peux décrire le mouvement nœud comme le passage du bleu au travers du croisement vert-rouge en respectant l'alternance, donc il y a de la discontinuité. Il y a quelque chose qui devrait coincer et qui décoince. C'est pour ça que c'est un mouvement de dénouement en même temps qu'un mouvement de nouement. Ça noue et ça dénoue. Et donc, le bleu qui passe au travers du croisement vert-rouge, je peux décrire le même mouvement comme étant le passage du rose-rouge, là, au travers du croisement vert-bleu. Et ça donne ça. Et la troisième description est aussi acceptable. Si maintenant je prétends conserver le croisement du bleu et du rouge, du bleu et du rose ici, je m'aperçois qu'effectivement, vous voyez ici, le croisement bleu-rose ici, c'est le même ici. Le bleu passe au-dessus du rose, le bleu qui est horizontal passe au-dessus du rose, qui est en biais. Et maintenant, c'est le vert qui est à droite du croisement que je fais passer à gauche. Comme ça. Mais dans ce sens-là, puisque je l'ai fait d'abord dans ce sens-là, c'est celui qui est à gauche que je fais passer à droite. Bon. Dans ce changement, vous voyez que j'ai fait passer le vert au travers du croisement bleu-rose. Le vert, il est passé au travers du croisement. Bon. Ça veut dire que le même objet est susceptible de trois descriptions qui sont toutes les trois cohérentes entre elles. Toutes les trois... Bon, c'est ce que je vais appeler une équivoque réelle. Ce qui prouve que l'équivoque signifiante, elle n'a rien... Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout pour emmerder le monde ou pour tromper les gens qu'il faut faire des équivoques et qu'il faut que la langue elle puisse permettre de faire des équivoques. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait supprimer les équivoques. Hein. Aujourd'hui, le pourboire est compris, n'est plus laissé à l'appréciation de la clientèle. C'est un trait de psychotisation de la civilisation. On ne laisse plus rien à l'appréciation de la clientèle. Donc, il ne doit plus y avoir d'équivoque. Parce que... On veut que tout soit écrit. C'est comme les nazis avec les étoiles jaunes et les tatouages sur le corps des juifs, vous voyez, ou les étoiles roses sur le revers des vêtements des homosexuels. Le psychotique, c'est celui qui refuse qu'il y ait de l'équivoque, qu'il y ait des choses qui soient lisibles et non écrites. Eh bien, le nœud, c'est justement, fort clos par le psychotique, parce que, justement, c'est une fonction qui est fondamentalement équivoque et géométrique. C'est-à-dire que même en mathématiques, malheureusement pour les informaticiens et les stupides qui croient que les mathématiques c'est du mécanisme, les mathématiques c'est du discours et c'est du langage, et il y a même une dimension de parole, c'est une métaphore impropre, c'est pas une métaphore poétique, ça je suis d'accord, mais c'est de l'ordre de la condensation freudienne, comme l'explique Lacan dans la Folie. C'est une condensation qui présente une équivoque réelle, comme d'ailleurs la symétrie miroir. Et tenez, à ce propos, je vous signale que j'ai mis sur le site que Pascal a organisé, là, la page où on met en ce moment des textes, je suis en train de peaufiner des textes, j'ai mis un texte sur le narcissisme, là, pendant l'été, à la fin de l'été. Je vais vous donner l'adresse du truc où il faut aller dans Internet. Ça porte mon nom, ça s'appelle Jean-Michel... Point va pro. Il n'y a pas d'écart entre les lettres. Hein. Il y a juste un point entre mon prénom et mon nom. Et puis il y a marqué point free.fr. Voilà. Bon. Si vous allez là, vous allez voir maintenant qu'il y a un nouveau texte qui vient de paraître. Il est un peu lourd, hein, il fait 70 pages. Mais les 16 premières pages sont suffisantes pour avoir une idée de ce dont je veux parler. Et tout le reste, c'est des développements un peu techniques sur la symétrie miroir. Donc je donnerai une version plus soft par la suite. C'est contesté par les grands esprits qui sont de très très grands magiciens de l'espace et qui prétendent me contredire là-dessus, que je me tromperais, mais n'empêche que là, c'est écrit. Au moins, comme ça, on pourra juger sur pièce. Je pense aux gens qui, dans la lettre de topologie, font des prouesses de avec les autistes qui prétendent savoir penser, je ne sais pas à quoi, des choses. Bon, moi, je suis d'avis que ces choses-là doivent être bien définies. Et donc, je les ai définies correctement et précisément par écrit. Je crois que je suis arrivé à une version assez juste. Ça s'appelle « Afin de préciser le narcissisme ». Ça s'appelle. Et je montre dans ce texte que la symétrie miroir... Le narcissisme nous introduit à la notion d'intrinsèque et d'extrinsèque en géométrie. Et la symétrie miroir, c'est comme mon triskel. Voilà. Le lien qu'il y a entre le borroméen, la fonction paternelle et le narcissisme, c'est la chose suivante. C'est qu'à partir du moment où vous avez un objet qui n'est pas plat, comme une feuille de papier, comme ça, à partir du moment où vous avez une troisième dimension, vous avez deux dimensions du plan, plus une troisième dimension, ça c'est la fonction phallique. Dans les nœuds, la fonction phallique est justement, vous voyez, elle apparaît quand on met dessus-dessous. C'est la troisième dimension. La troisième dimension, elle apparaît là. Voilà. Ça, c'est le phallus. Ça, c'est ce qui fait trauma avec la droite infinie. Et cette fonction phallique, si on introduit la troisième dimension, vous voyez, un objet de dimension 3 devant un miroir, il y a quelque chose qui s'inverse. Vous voyez, si je mets ma main devant un miroir, j'ai un miroir ici. Qu'est-ce que je vois de mon trièdre tri-rectangle, très cartésien et euclidien? Qu'est-ce que je vois? Je vois un trièdre symétrique qui est inversé. Une dimension s'est inversée. Pas les deux autres. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe dans l'inversion, dans la symétrie miroir? Il se passe la chose suivante, comme dans le triskel, regardez bien, que l'inversion de l'image se fait selon une direction et pas les deux autres. Mais si je change, mes deux objets étant identiques en eux-mêmes, chacun, il y en a un droit et un gauche, si je change leur présentation l'un par rapport à l'autre, je m'aperçois que c'est cette dimension-là qui s'oppose quand les deux autres sont non opposés, sont parallèles. Vous voyez? C'est de là. Bon. C'est pareil si j'oppose les deux pouces. Vous voyez? Si j'oppose les deux pouces, les autres doigts sont parfaitement parallèles. Ça veut dire que dans le miroir, c'est comme dans un nœud borroméen, c'est comme dans un triskel, dans le mouvement nœud, un des trois doigts, c'est-à-dire une des trois directions, une des trois dimensions, est inversée, mais on ne sait pas laquelle. C'est la même chose ici. Dans le mouvement nœud, un fil du triskel parmi les trois passe au travers du croisement des deux autres, mais on ne sait pas lequel. C'est vrai du rose, au travers du croisement vert et bleu. C'est vrai du vert, au travers du croisement bleu et rose. C'est vrai du bleu, au travers du croisement vert et rose. C'est vrai de un quelconque des trois fils, au travers du croisement des deux autres. Il y a une fonction que j'appelle père, voyez-vous, qui n'a rien à voir avec le fait de menacer l'enfant qu'on va lui couper la queue. Hein. Et comme le dit Lacan, ça c'est Aristophane, c'est comique, mais il ne faut pas commettre le père là-dedans. Le père, c'est celui qui est banal, mais exceptionnel. C'est ce que j'appelle, ce que j'explique, c'est que c'est ces choses, le nom du père, c'est ces choses qu'on apprend dans sa famille, quand on finit par aimer, par trouver absolument exceptionnel la manière dont, dont ma mère fait des tomates farcies. C'est ça le père. Le nom du père, c'est ça. C'est ni le père réel, ni le père symbolique, qui est le phallus plutôt, ni le père imaginaire, qui est l'idéal, le rival. Le nom du père, c'est cette fonction que l'enfant peut découvrir, n'est-ce pas, dans ce que font ses parents et dans ce que fait la mère avec le père. C'est tout à fait pudique, cette affaire. La mère, elle finit par faire des choses qui sont, on pourrait dire, qui marchent. Pour l'enfant, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et il y a des noms du père nationaux. Vous voyez, par exemple, les Français, ils ont plutôt la baguette de pain et le vin et le fromage, le camembert. Quand je suis en Argentine, en Argentine, le nom du père alimentaire, c'est le dulce de leche. Je dis dulce de leche parce que c'est un côté italien. C'est le dulce de leche, c'est-à-dire c'est du lait caramélisé. C'est un dessert. Bon, chaque pays, chaque ville, ça participe de ce que les stoïciens appelaient. Ça commence dès le stade du miroir, dès le narcissisme, ça commence avec les incorporels, ce que les stoïciens appellent les incorporels, ce que l'étranger ne peut pas comprendre. Voilà comment les stoïciens définissaient l'incorporel. Hein. Les sons, c'est corporel, puisque c'est de l'air qui vibre. Les objets référents, ce que ça désigne, c'est corporel, ce sont des objets. Tandis que la signification, les incorporels, c'est ce que l'étranger ne peut pas comprendre. Moi, ma grand-mère, elle faisait le curry de poisson de telle manière que vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes d'ailleurs des ignorants, des bouseux, vous êtes des provinciaux, des étrangers, vous êtes pour moi quelque chose. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Et chacun va même aller jusqu'à tuer père, mère et même les autres au nom de ces choses banales. Pour tout le monde est exceptionnel. C'est un des grands motifs de l'assassinat qui prend des formes aujourd'hui industrielles, voyez-vous. Et si la psychanalyse n'est pas capable d'expliquer ça aux politiques, je suis d'accord qu'il faudrait bien que les politiques fassent un jour une analyse, peut-être, pour devenir des politiques sérieux, puisque la psychanalyse, son rôle, c'est ça, c'est cet enseignement politique-là. Pour qu'on arrête d'écorcher vivants les cerfs d'en face parce que simplement ils ne mangent pas exactement les mêmes fromages ou les cahiers que ceux que préparait ma maman dans mon village. Vous voyez ? Et les écolos qui en rajoutent et qui veulent manger, qui luttent contre le fromage pasteurisé, ben, ils ont raison, mais ils ne savent pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est attaché comme ça à ces choses? Ou bien alors on n'en a pas. Et si on n'en a pas, au nom du Père, si on n'y comprend rien à ces choses banales et exceptionnelles qu'on ne peut même pas expliquer, vous voyez, cette fonction d'une chose qui est fondamentalement équivoque. C'est ça la fonction paternelle. Bon. Alors, voilà, j'ai situé ça dans le nœud. Tout ça, c'est pour vous dire comment Lacan va introduire la leçon numéro 3. Alors, est-ce que... Lisez mon petit texte sur le narcissisme. Lisez le début, puis on peut en parler la prochaine fois, la semaine prochaine, si vous voulez. Parce que dans cet article, prépare avec cette histoire de symétrie miroir une petite découverte que j'ai faite pendant que je rédigeais ce texte. Vous voyez, j'ai fait une petite trouvaille aussi. Je vais vous dire la trouvaille que j'ai faite et ça va nous mettre de plein pied avec ce que nous faisons là en lisant Lacan à propos de la chaîne A3, du nœud trèfle et de la chaîne A4. La difficulté de la chaîne A4, je vous dis, c'est qu'il faut faire deux mouvements nœuds dans la chaîne A4, mais maintenant il y a un nouveau problème. C'est qu'il ne faut pas. Il faut pas tout défaire en faisant le mouvement nœud dans ces deux cas-là. Ça veut dire que vous avez peut-être intérêt à rabattre si vous faites un mouvement nœud sur celui-là, vous avez intérêt à rabattre le blanc par là. C'est pas pareil si vous faites le mouvement nœud en ayant mis le blanc là ou en ayant mis ailleurs. Donc vous pouvez déplacer le blanc. Vous pouvez le mettre en bas ou le mettre ailleurs. Enfin bon, je vous laisse découvrir ça. C'est ça la difficulté du cas que Lacan n'a pas réussi à résoudre. Bon. Or, Souris et Thomé ont réussi à résoudre ce problème puisqu'ils arrivent, la leçon 3, la leçon suivante, ils arrivent, et voilà ce que publie Lali, qui est reproduit exactement dans le séminaire du Seuil par l'autre gendre, pas le gendre du prophète, le gendre de la confiture. Il a reproduit exactement le même dessin. Il y a une erreur dans ce dessin, enfin dans cette édition, mais elle a été corrigée, l'erreur, dans l'édition suivante. Il y avait une erreur ici entre un croisement noir qui est raté. Hein? Bon. Mais n'empêche que ça, c'est la solution des quatre nœuds trèfles dessinés par Souris et Thomé. Bon. Moi, ce que je vous dis, d'étudier ça d'abord, ça va vous permettre d'apprécier la solution de Souris et Thomé. Parce que Souris et Thomé, ils vont faire des choses vachement bien pour trouver cette solution. Regardez, je vous montre ça comme ça. Si vous défaites la chaîne qu'ils ont proposée, là, que j'ai coloriée, si vous prenez par exemple seulement le rapport du vert avec le noir, vous allez vous apercevoir qu'ils ont très astucieusement créé toute une série de coincements et de décoincements. Que ce sont des choses qui se défont par symétrie dans la tresse. Ça, c'est le grand art de Souris, de savoir faire ça. Bon. Pour apprécier la solution de Souris et Thomé, je vous conseille déjà de réfléchir comment faire une chaîne broméenne à 4 rien qu'avec des ronds. Alors avec des trèfles, vous allez voir, il reviendra, ça va, c'est beaucoup plus emmerdant. Bon, alors quelle trouvaille est-ce que j'ai faite, moi, pour nous introduire à ça? J'ai fait la trouvaille suivante, qui va nous permettre, à mon avis, d'avancer dans la question de cet intérêt que Lacan porte aux trois et qu'il fait porter à Freud, et je pense à juste titre, que dans Freud, il y a du 4, et quelle est cette histoire de 3 et 4? Quelle est cette histoire de 2, de 3 et 4? Bon, je passe sur la plaisanterie de Badiou qui a cru devoir contredire Lacan et le critiquer dans Conditions à propos du 2, dans Ou pire, dans un séminaire qui précède celui-ci, c'est un moment où Lacan faisait encore de la logique, présentait les formules de la sexuation. Badiou reproche à Lacan d'avoir écrit que le nombre 2 était inaccessible. Lacan a parfaitement raison de dire que le nombre 2 est inaccessible en logique de boule. En, algèbre, dans une algèbre de boule. C'est-à-dire que la logique est une logique qui se fait dans un calcul qui commence avec du 0 et du 1, et où le 2 est inaccessible pour la raison suivante, c'est que ce sont des calculs algébriques qu'on appelle techniquement, parce que ce n'est pas une technique très compliquée à comprendre, on appelle ça en caractéristique 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un calcul se fait en caractéristique 2 ? Un calcul se fait en caractéristique 2 quand on a toutes les multiplications par 2 qui donnent 0. Vous voyez ? Il suffit que 2x égale 0 soit un axiome pour que le 2 disparaisse de vos calculs. Et ça s'apporte un nom, ça s'appelle structure de groupe, structure d'anneau, structure de corps en caractéristique 2. Caractéristique 2. Bon. La caractéristique, c'est un nombre qu'on ne trouve pas dans les nombres réels, ni dans les nombres fractionnaires, dans les ensembles infinis, et qu'on trouve en arithmétique dans tous les groupes de congruence. La caractéristique, hein, c'est le nombre par lequel on peut multiplier n'importe quel élément pour obtenir 0. C'est un nombre qui va disparaître des calculs. Donc Lacan fait le rapprochement entre l'inaccessibilité de l'infini dans un ensemble fini, justement, et un cas parfaitement fini où il y a juste 0, 1 et que le 2, ben, il se retrouve dans la même position que l'infini. Le 2, il se trouve être parfaitement... Le 2, il est exactement quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, qui va être extrinsèque à l'intrinsèque de l'algèbre qu'on est en train d'étudier. Bon. Donc le 2, vous avez 0, 1, Lacan il fait juste remarquer, il dit que quand on a 0 et 1, il y en a 2, ils sont 2. Mais on peut très bien calculer en rendant le 2 inaccessible. C'est pas seulement l'algèbre de boule, c'est toutes les algèbres de boule. C'est pas la plus petite algèbre de boule, c'est toutes les algèbres de boule. Elles ont cette caractéristique de présenter ensuite 2 à la puissance 2, puissance n éléments. C'est-à-dire que ça fait du 2, du 4, du 16, etc. Mais on peut s'intéresser à tout ce qui est 2 puissance n. Et puis, avec du 2, donc, on peut faire facilement du 4. 2 plus 2, ça fait 4, et 2 fois 2, ça fait 4. Ça, Platon, ça l'avait déjà fasciné. Vous n'avez qu'à voir ce que Platon écrit au début du Timée. Il dit tout de suite 1, 2, 3, et le quatrième, où est-ce qu'il est passé ? Bon, vous voyez, donc, c'est une histoire. Ce 3 et ce 4, si le 2, c'est l'imaginaire, le 3 et le 4, d'où ça vient ? Ben, j'ai fait la petite trouvaille suivante. Je me suis aperçu en étudiant la symétrie miroir d'une manière extrêmement rudimentaire que je définis dans mon article sur le narcissisme que si les objets sont de dimension 2, ils sont identiques à leur image. C'est même comme ça que je comprends que Lacan dit à son séminaire en parlant à son auditoire, il dit vous pensez plat. Vous voyez, vous pensez plat. C'est-à-dire que vous vous identifiez à votre image dans le miroir parce que vous pensez plat. Si vous ne pensez pas plat, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui s'inverse dans l'image narcissique, mais on ne sait pas quoi. C'est la fonction paternelle. C'est ça. On est aliéné par la fonction paternelle. C'est une bonne raison d'aboyer contre le père pour tout le monde. Vous voyez, c'est même dans Homère, vous le trouvez à la fin de Ulysse. Vous savez, c'est la phrase que Lacan a inversée. Quand Ulysse retrouve son père à Ithaque, et le père lui dit, c'est même là que Claudel place la mère de l'œuvre de Homère. C'est l'histoire de l'arbre avec le lit. Et qu'est-ce que lui dit le père à Ulysse ? Il lui dit « Le père et le pire sont jamais sûrs. » Et dans télévision, Lacan l'a repris, cette formule de Homère, en l'inversant, il dit que le père et le pire, c'est toujours sûr. Bon. Donc, si vous voulez, depuis la nuit des temps, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde... Comme le dit Lacan, il n'y a pas d'analyse de père. Si vous trouvez une analyse de père, amenez-la à moi tout de suite, disait-il. On n'a jamais vu un père en analyse. Quand on parle du père, dans l'analyse, c'est toujours le fils, ou la fille, ou une femme qui parle du père de ses enfants, mais c'est toujours les autres qui parlent du père. Le père, lui, m'accache, rien. Il est inconscient. mais au sens propre. Il est inconscient parce que, vous voyez, il est tellement inconscient qu'il est réellement impossible de dire quel est le brin qui traverse le croisement des deux autres brins dans un mouvement neutre. C'est impossible de dire quel est l'élément qui s'inverse dans le miroir, quelle est la dimension qui est inversée dans le miroir. Et regardez comme c'est encore mieux là, avec la symétrie miroir. Mes deux trièdres, trirectangles droit et gauche, ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Il y a quelque chose d'inversé, mais je ne sais pas quoi. C'est aussi bien ça que ça que ça. Et je peux dire aussi que c'est les trois qui sont inversés ensemble. Regardez. Vous voyez ? Les pouces sont opposés. Ce doigt-là est opposé à celui qui est derrière. Hein, et celui-là, il est opposé à celui-là. L'inversion, ah voilà une façon de faire 1 avec du 3. Vous voyez ? Avec du 1 ou 1 ou 1, hop, vous faites une unité, vous faites un nœud.